Voilà, bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire L'Amérique et vous, Abdourahmane Dia à la présentation. Les auditions publiques dans l'enquête sur une possible mise en accusation du président Donald Trump ont pris fin hier jeudi. La Chambre des représentants pourrait se prononcer avant la fin de l'année, ce qui ouvrirait la voie à un procès au Sénat. Le président Trump lui-même a affirmé ce vendredi matin qu'il souhaitait la tenue d'un tel procès, même s'il continue de dénoncer la procédure enclenchée par les démocrates. Voilà, donc nous allons parler de cette procédure, faire le point jusque-là avec mes invités. Avec moi ici en studio, mon confrère Henri Francisque. Henri, journaliste ici à La Voix de l'Amérique. Nous avons en ligne dans le Maryland, Jean-François Seznec, professeur à Georgetown University, et puis à Paris, l'analyste politique Athanase Karienga. Bonsoir à tous. Nous allons commencer avec vous, Henri. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces auditions publiques?
Eh bien, la première constatation, c'est que il y avait beaucoup de gens avec le président Trump dans cette affaire ukrainienne. Il n'était pas seul. Et les ambassadeurs qui ont témoigné n'étaient pas seuls. Ils travaillaient tous en équipe. Et Gordon Sondland, qui est l'ambassadeur américain à l'Union européenne, a dit que everybody was in the loop. C'est-à-dire que tout le monde était dans cette affaire. Le président, le secrétaire d'État Mike Pompeo et d'autres hauts responsables. Et lui, il travaillait avec Rudy Giuliani, l'avocat personnel du président, et d'autres personnes pour mettre en application le plan présidentiel qui était d'essayer de convaincre l'Ukraine, et le président ukrainien en particulier, de réclamer une enquête sur la corruption en Ukraine. Le président Trump, de façon générale, le président Trump a bien dit ma mission, mon projet, c'était de lutter contre la corruption en Ukraine. Et c'est pour ça que j'avais besoin de coup de main du président Zelensky, mon homologue ukrainien.
Voilà. Et vous, professeur Seznec, que retenez-vous, disons, de ces auditions publiques, de la douzaine d'officiels?
Oui, je pense que effectivement ils ont bien prouvé que le président avait proposé aux Ukrainiens qu'il leur donnerait l'argent de l'aide militaire s'ils faisaient les investigations promises, mais c'est pas été présenté de façon absolument sûre,
convaincante.
Et donc, quand ça va se présenter au Sénat pour le jugement final, les républicains qui ont le contrôle du Sénat voteront en faveur du président. Donc, il va y avoir le impeachment, ça va se passer dans la Chambre des représentants, mais ne passera pas le Sénat, à mon avis.
D'accord, on pourra revenir d'ailleurs sur cela. Et vous, Athanase, vous qui êtes de l'autre côté, disons, de l'Atlantique, comment est-ce que vous suivez tout cela et qu'est-ce que vous retenez?
C'est un feuilleton planétaire, c'est un remake de 24 heures chrono. Les États-Unis nous ont toujours émerveillés avec leur capacité à produire des films dans un suspense insoutenable. J'ai l'impression que c'est dans le même registre que se situe ces enquêtes sur le coup de fil entre le président Trump et le président Zelensky d'Ukraine. Non, il y a quelque chose de surréaliste, mais en même temps quelque chose de rassurant. Surréaliste parce que, quoi qu'on dise, quoi que dise la Maison-Blanche, l'administration, il me semble, mais ça c'est vraiment quelque chose de très personnel, il me semble que il y a un gros mensonge qui couvre, que toutes ces institutions couvrent. Et ce gros mensonge, il n'ose pas l'avouer, il n'ose pas l'affirmer, il n'ose pas plaider coupable. Mais j'ai vraiment, après avoir suivi toutes les dépositions, on sent qu'il y a un mensonge qui est entretenu. La deuxième chose qui me frappe beaucoup, c'est la violence du président Trump quand il s'adresse notamment aux personnes qui apportent des témoignages accablants. Je pense notamment à l'ambassadrice Marie Jovanovic. Oui, il a été vraiment à la limite de la grossièreté parce que tout de même, c'est une dame qui était ambassadrice des États-Unis, c'est une dame qui apparemment était très appréciée. Elle a été débarquée de façon absolument insupportable. Et en plus, pendant ses expositions, elle a été vraiment prise à partie de façon insoutenable.
D'accord.
Je crois que même, tout simplement pas un chef d'État, mais un homme tout court ne devrait pas traiter une dame de cette façon, de façon publique.
D'accord.
Et enfin, le troisième personnage qui apparaît dans un théâtre chinois, c'est l'avocat Giuliani. Et j'ai l'impression que c'est vraiment l'âme d'un...
C'est vrai, on a beaucoup parlé de Giuliani, on a également beaucoup parlé de John Bolton. Ce sont les grands absents très présents dans ces auditions, n'est-ce pas, Henri?
Oui,
absolument.
Il y a le... John Bolton, qui était l'ancien conseiller à la sécurité nationale, eh bien, il ne cesse d'ailleurs d'envoyer des messages et de dire qu'il a beaucoup à dire, mais que bon, pour le moment, il n'est pas disponible.
Il a repris ses tweets aujourd'hui.
Exactement, et tout le monde aimerait l'entendre, mais apparemment, il aime se faire désirer.
Vous, Jean-François Seznec, ces grands absents, vous pensez que c'est vrai qu'on parle de peut-être passer au vote avant la fin de l'année, vous pensez que le calendrier pourrait être modifié pour que ces grands absents puissent se présenter?
Si vraiment la Cour de justice décidait que Bolton est obligé de témoigner, parce qu'il a demandé l'intervention de la Cour de justice pour avoir le droit de témoigner, si la Cour de justice décidait que Bolton avait le droit de témoigner, à ce moment-là, oui, je pense qu'ils attendraient un petit peu quand même, parce que c'est trop important, parce que lui a vraiment les clés des mensonges dont on parlait tout à l'heure, et il pourrait vraiment avoir beaucoup plus de crédibilité que les autres, parce que lui a un contact direct et des ordres directs du président. Le plus important, ce serait Giuliani, si on pouvait l'avoir, mais lui, je pense qu'il fera tout ce qu'il faut pour ne pas témoigner. Parce qu'en plus, lui, il prend des risques énormes, parce qu'il serait très, très facile de simplement sacrifier Giuliani pour protéger le président.
Et celui qu'on attendait peut-être moins, c'était Mike Pompeo. Et maintenant, on se rend compte peut-être que lui aussi a des choses intéressantes à dire.
Bien sûr.
Et que répondez-vous à Athanase qui parlait du temps du président? C'est quand même quelqu'un qui, ses partisans disent que il se défend. Jean-François? Je crois qu'on l'a perdu. Henri,
Oui,
le temps du président, en fait, c'est quelque chose que vous comprenez. La défense est une défense pour lui, ça marche.
Mais le président a toujours eu son franc-parler. C'est d'ailleurs l'un de ses atouts quand il fait campagne auprès de son public. Et ses partisans estiment qu'il a le droit de se défendre et même d'être très vigoureux dans sa défense. Donc il est soutenu par une minorité d'Américains qui croient dur comme faire à sa politique. Et il n'hésite pas, il le disait d'ailleurs pendant la campagne électorale en 2016, que quand il est attaqué, il riposte 10 fois plus fort.
D'accord. On va peut-être voir du côté des auditeurs je crois qu'ils ont des choses aussi à dire. On a beaucoup de réactions sur Facebook. On a Nectaire en RDC. Nectaire, vous nous entendez?
Oui, je vous entends.
Voilà. Donc vous dites que c'est ça la démocratie. On vous écoute.
Voilà mon commentaire. Le souci, c'est que la démocratie, vous savez que s'il est destitué, ce sera une très grande victoire de la démocratie, non seulement pour les États-Unis, mais aussi et surtout pour le monde entier. Vous savez, une élection, c'est une compétition. Et dans la compétition, il faut laisser tout le monde libre, tout le monde participer. Mais lorsque vous cherchez à empêcher les autres à travers des ingérences comme ça, ça c'est pas une bonne chose pour la démocratie, surtout la démocratie américaine qui est un modèle pour beaucoup de pays, non seulement africains, mais beaucoup de pays du monde entier. Ce n'est pas une bonne chose. Nous nous encourageons que ce processus soit mené jusqu'au bout, que vérité soit...
S'il est blanchi aussi, vous l'acceptez aussi, non? C'est, comme vous dites, c'est cela la démocratie.
C'est aussi la démocratie, voilà. Mais il faut que la procédure soit menée jusqu'au bout. S'il est blanchi, oui, on va accepter que la démocratie. Mais si il est prouvé que réellement, oui.
Voilà, et on a Justin Philippe en ligne également, il nous appelle du Togo, c'est ça?
Oui, allô, oui, vous l'avez là.
Oui, allez-y.
À mon avis, moi je dirais, le tout même, c'est pas quelqu'un qui veut faire la politique. Il a eu des problèmes depuis son élection jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours des problèmes sur problèmes, donc... Je crois que cette procédure de destitution, ça va prouver vraiment que son élection était une façade parce que c'est depuis son élection qu'il a commencé à avoir ces problèmes. Et pas mal avec les d'autres pays aussi. C'est comme ça, il a menacé des gens, des pays, tout, presque quoi. Donc, vraiment, si cette procédure allait jusqu'au bout, ça va montrer l'exemple aux autres présidents qui viendront quand même. Et ça va aussi donner des exemples à nos pays africains, parce que je vais demander si cette démocratie devait aussi avoir, comme je dis, appliquer ça aussi à nos pays africains. Ça serait une bonne chose.
Merci beaucoup, Justin. Alors, Athana, justement, beaucoup de nos auditeurs sur Facebook font un peu le parallèle avec ce qui se passe en Afrique en disant que, quelle que soit l'issue de cette procédure, au moins, on sait qu'il y a des institutions qui peuvent demander des comptes au président. Comment est-ce que vous voyez tout cela?
Ils ont tout à fait raison, parce que malgré tous les défauts qu'on peut reprocher au président Trump, les États-Unis ont une constitution qui vraiment respecte la séparation des pouvoirs et c'est absolument heureux qu'il soit possible que le Parlement puisse enquêter sur une décision ou une communication entre le président Trump et son homologue ukrainien. On voit bien, la Cour suprême également, elle est absolument autonome. C'est pas seulement d'ailleurs pour l'Afrique, cet exemple de séparation des pouvoirs est à saluer, c'est aussi même en Europe, parce que souvent... dans les pays européens, le chef de la justice, c'est quand même le ministre de la justice et c'est quand même le chef de l'État. Il y a une sorte de confusion que les Américains ne comprendraient pas. Et non, je crois qu'il faut saluer ça. C'est quelque chose de très positif. Mais pour autant, le système de destitution, l'impeachment, c'est un système rare, c'est vrai, dans les institutions américaines. Mais il n'y a aucune leçon qu'on a retirée des impeachments précédents.
En fait, même dans les constitutions des pays africains, il y a un système qui permet de destituer un président. C'est juste que c'est difficile de constater des fois la séparation des pouvoirs. Jean-François Sesmec, vous aussi, quelle est votre lecture de tout cela, quand on voit un peu l'intérêt que cela suscite dans le reste du monde?
Écoutez, il y a une chose qui est remarquable que Athanase a dit d'une certaine façon, c'est que dans la Constitution américaine, qui est très très forte, bien qu'elle soit très courte, elle est très forte parce que quand même il y a une exigence d'avoir une preuve absolue avant de faire une destitution du président. Et cette preuve absolue, effectivement, pour le moment, le président a pu y échapper. Bien que tout le monde sait ce qui s'est passé, on n'arrive pas vraiment à prouver le fait qu'il est vraiment donné l'ordre précisément. Et ça, c'est une très bonne chose, dans un sens, même si les gens qui n'aiment pas Trump ne le voient pas partir, mais ça montre que la Constitution est quand même très... très solide et que la séparation des pouvoirs, comme a été mentionné, est vraiment une excellente chose pour la continuité de la démocratie aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer partout dans le monde, en fait.
Absolument. Alors, Henri, justement, il y a le principe hein, que l'impeachment existe dans le système, mais dans la réalité, on en parlait ce matin, il est très difficile de destituer un président, même ici aux États-Unis.
C'est-à-dire qu'au cœur de la Constitution américaine, il y a ce principe que personne n'est au-dessus de la loi et que la loi est la même pour tous. C'est-à-dire que si le président commet une infraction qui est répréhensible, il doit pouvoir être poursuivi soit après la fin de son mandat ou quand il n'occupe plus la magistrature suprême, ou bien alors il faut le destituer pour ensuite le remettre à la justice. Et la procédure qui est en cours vient du fait que l'opposition démocrate reproche au président Trump d'avoir commis une infraction grave, c'est-à-dire d'avoir demandé à une puissance étrangère, à un chef d'État étranger, d'intervenir dans une campagne électorale américaine. Le code électoral américain est très clair. Il est interdit de réclamer de l'aide d'un pays étranger et vous ne pouvez pas recevoir de l'argent ou des conseils ou même un petit coup de pouce de la part de l'étranger. Les États-Unis ont toujours été contre toute intervention étrangère dans leur processus électoral et la sélection de leur chef d'État. Et c'est ce qu'on reproche au président Trump, du moins l'opposition démocrate, d'où cette procédure d'impeachment et ce que certains appellent l'acharnement des démocrates, parce qu'ils disent qu'il y a eu violation de la loi et il y a eu faute grave et il doit y avoir des sanctions.
Oui, mais là aussi, la Chambre peut voter, mais le problème c'est le Sénat et il ne suffit pas au Sénat même d'avoir 50 plus. Une voix, il faut
une majorité des deux tiers, mais exactement. Le principe, c'est de faire respecter la loi. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui pilote ce processus d'impeachment, de mise en accusation, elle a dit que la Constitution est claire, on ne peut pas demander à un leader étranger d'intervenir dans le processus électoral américain, et que le président Trump soit destitué ou pas, nous allons appliquer la loi.
D'accord. Et pour vous, Jean-François Sesnec, quelles pourraient être les charges retenues contre lui? On parle d'abus de pouvoir, de corruption. Là aussi, il faut que les démocrates réfléchissent bien sur la charge à retenir s'ils décident d'aller à l'étape suivante.
Oui, absolument. Et ils vont aller à l'étape suivante d'une façon ou d'une autre. Ça, je crois que c'est à peu près sûr. Et je ne sais pas encore quelles charges ils pourront sortir. Mais vous savez, il y a quelque chose quand même qui est assez proche, c'est le fait qu'on pourra peut-être avoir accès aux taxes, aux impôts, de la feuille d'impôt du président. Et là, il y aura peut-être encore d'autres possibilités de développer les charges, de faire un nombre de charges très importantes contre le président. Et dans ce cas-là, ça allongera un peu la procédure, bien sûr, mais il y a un cas en cours de justice en ce moment devant la Cour suprême, où peut-être que la Cour suprême va permettre aux impôts du président d'être présentés au public. Donc ça pourrait vraiment changer la donne et ça pourrait peut-être changer un petit peu la vue du Sénat.
De beaucoup de républicains.
Oui.
Alors, Athanase, le président dit qu'il veut maintenant un procès. Vous pensez que c'est peut-être parce qu'il voit une possibilité pour lui d'en sortir ragaillardi?
Non, je ne crois pas. Il veut un procès parce que c'est un baroudeur, c'est un combattant, c'est un taureau dans l'arène.
Il veut en découdre
avec ses ennemis ou ses adversaires. Mais moralement, il est à terre malgré tout parce que on a encore à l'esprit ces rodomontades. Mais on le disait tout à l'heure, il y a un gros mensonge qu'il couvre, et je ne suis pas sûr qu'il souhaite un procès pour qu'on lui donne la possibilité de dire la vérité pour qu'il puisse éclairer l'opinion publique américaine. Je ne crois pas. Il sait de toute façon qu'au Sénat, il peut compter sur des républicains complaisants qui ne laisseront jamais Trump, même s'il n'est pas de leur de leur propre il n'est pas républicain de souche, ils vont jamais le laisser tomber. Donc Trump dit, c'est une façon de narguer les démocrates en disant, ah, vous voulez un procès, j'y vais et je vais
d'accord, cogner. D'accord,
ça va cogner, c'est tout.
Merci, Athanase. Alors, Henri, les risques pour les démocrates, il y en a aussi. Hein. Bernie Sanders, lors du débat avant-hier, a mis en garde les démocrates en leur disant que si on se focalise trop sur Donald Trump, on pourrait perdre les élections.
Oui, parce que s'il y a procès, s'il y a impeachment, c'est-à-dire mise en accusation du président, évidemment toute l'attention du public va être attirée sur cette procédure et le Parti démocrate ne pourra pas présenter ses projets de gouvernement, transformer le système de santé aux États-Unis, pouvoir couvrir tout le monde, réduire le déficit. Donc le Parti démocrate a beaucoup de plans, mais tout cela risque d'être modifié s'il y a un procès au Sénat où le sort du président est en jeu.
D'accord. Jean-François Seznec. Et finalement, ce qui compte, hein, c'est de convaincre le public, l'opinion, n'est-ce pas, oui, dans tout cela.
Absolument, absolument. Et vous savez, une des faiblesses des démocrates, c'est que quand même, ce qui est très intelligent dans la tactique des républicains, c'est que malgré tout, ils affaiblissent le principal candidat démocrate qui est Biden encore. Il n'est pas très élevé dans les
sondages.
C'est ça, oui, mais il est vraiment dans les sondages. Mais il souffre quand même du fait que le mot corruption est associé avec le nom Biden, même s'il n'a rien à voir avec ça. Et ça leur fait beaucoup de mal. Donc, et ça peut être très dangereux.
Donc plus on parle de
les démocrates, oui.
Plus on parle de l'impeachment et plus on parle de Donald Joe Biden et de son fils.
Voilà, exactement.
Et c'est pas forcément bon pour lui, vous pensez?
Non.
D'accord. Et vous, Athanase, quelle est votre lecture de tout cela?
Il me semble, même si Trump, c'est quelqu'un qui adore la bagarre et la cogne, malgré tout, raisonnablement, il peut aussi perdre de sa superbe. Je pense que ce n'est quand même pas honorable quand un chef d'État soit tous les jours traînés dans des affaires aussi louches que l'intervention des Russes dans les élections. Maintenant, c'est ce coup de fil avec l'Ukraine. Et puis, ce scandale peut-être potentiel des impôts de ses enfants. On ne voit vraiment pas un chef d'État, même s'il a son caractère, même s'il a sa fortune, même s'il a sa franchise, rester dans une sorte de zone extrêmement malsaine de relations dures, violentes, insultantes, avec il faut voir le langage avec lequel il parle avec les chefs d'État étrangers, le maire de Londres. Je sais pas, il y a quelque chose de malsain.
On est obligé d'aller un peu vite. Merci beaucoup.
Il faudrait vraiment que ça s'arrête.
Voilà. On va terminer avec vous, Henri. Vous étiez là en 96 quand il y avait aussi la
98.
Procédure. 98, l'impeachment de Bill Clinton. Quand vous voyez l'impact à ce stade, vous pensez que il y a une comparaison à faire en termes de, disons, d'intérêt du public, d'impact?
Mais c'est-à-dire que les accusations portées contre le président Trump sont plus sérieuses que celles qui ont causé des problèmes au président Bill Clinton. Le président Bill Clinton était accusé de parjure parce qu'il avait pas dit la vérité concernant une liaison avec une stagiaire à la Maison Blanche, alors que ici, dans le cas du président Trump, on parle d'un leader américain qui a demandé à un chef d'État étranger de lui donner un coup de pouce.
L'opinion a réagi de la même façon? Est-ce que c'était pas plus... est-ce que cette fois-ci l'opinion est à fond dans cette affaire comparée à 98?
Je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt cette fois-ci. Parce que dans le cas Clinton, beaucoup de gens estimaient que Ken Starr, le procureur qui s'était occupé du dossier, vraiment, il avait une montagne d'une souris. Alors que dans le cas de Donald Trump, il s'agit de défendre la Constitution des États-Unis et le principe que l'étranger doit pas être mêlé aux affaires intérieures américaines. Comme on dit, la politique s'arrête à the world edge, c'est-à-dire voilà. à la frontière du pays.
On n'a pas fini de parler de cette affaire. Merci beaucoup à mes invités, Jean-François Seznec de Georgetown University à Paris, Athanas Karienga ici avec moi, Henri Francisque. Merci à Michel Joseph. Dans quelques instants, une autre édition du Monde Aujourd'hui avec Ekiabado. Au revoir.